VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, les deux principaux partis d'opposition sud-africains ont saisi la Cour constitutionnelle ce mardi pour obliger le président Jacob Zuma à rembourser une partie des 20 millions d'euros d'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée de Nkandla, un scandale qui empoisonne son mandat depuis plus de 2 ans. Affaibli politiquement par une succession de polémiques et de gaffes, le président sud-africain va prononcer jeudi son discours annuel sur l'état de la nation au Parlement, alors que le pays traverse sa période la plus difficile depuis la fin de l'apartheid. L'opposition et des organisations civiles du mouvement Zuma Must Fall, Zuma doit partir, ont prévu à cette occasion de manifester dans plusieurs grandes villes. Abus et exploitation sexuelle en Centrafrique et ailleurs dans le monde, l'ONU a nommé lundi une coordinatrice spéciale chargée d'améliorer la réponse des Nations Unies face à ce fléau. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'américaine Jen Olliot a pour mission de renforcer la réponse onusienne aux nombreuses affaires d'abus sexuels qui ont terni l'image des casques bleus. Madame Olliot est conseillère spéciale de l'ONU pour la réinstallation hors d'Irak des résidents du camp Ourouya près de l'aéroport de Bagdad. Sur 69 cas d'abus sexuels présumés recensés l'année dernière, dans 16 missions de paix dans le monde, 22 concernent la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Celle-ci a identifié récemment 7 nouveaux cas présumés, dont au moins 5 concernent des fillettes. Les Nations Unies ont commencé à nommer les pays dont sont originaires les soldats incriminés et à rapatrier des contingents entiers de casques bleus venus du Congo ou de la RDC. Il revient aux pays qui fournissent des troupes à l'ONU d'enquêter et de sanctionner les coupables.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, plusieurs associations de presse ont réclamé justice lundi suite à la mort de leur confrère tué vendredi dernier par balle au siège de l'UFDG. C'est après une marche que les journalistes ont demandé aux autorités guinéennes de faire la lumière sur cette affaire. On écoute leur porte-parole, Mam Diallo.
Nous sommes offusqués, scandalisés, atteints par l'audace des assaillants qui ont commis ce crime odieux en plein jour au sein d'un parti politique qui aspire au règne de ce pays. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Et plus loin, nous demandons que ceux qui sont à la base de cette tuerie, ceux qui ont parrainé ou soutenu ce carnage,
Mam Diallo à Conakry en Guinée. Et puis au Nigeria, à l'appel de deux principales centrales syndicales, des milliers de travailleurs ont marché lundi à Abuja et Lagos pour protester contre la hausse de 45% du prix de l'électricité. Le professeur Akambi Ilupeju de l'université de Lagos nous dit comment cette décision a été prise.
Avant, on payait pour les compteurs, même les compteurs précédents. Ils ont des milliers de naira. Et le gouvernement a demandé une explication aux fournisseurs d'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la subvention qui leur a été fournie par le gouvernement? Et il n'y avait pas une explication justifiable. Alors le gouvernement a décidé et leur a demandé d'installer les compteurs prépayés gratuitement aux consommateurs de chaque foyer ayant besoin d'électricité. Alors c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il faut aussi sensibiliser les bailleurs de fonds. Si à un tarif très bas, il n'y aura pas des investisseurs fiables ou durables qui pourraient fournir l'électricité que nous avons tant besoin. Alors, il faut une augmentation. Mais les gens n'en discutent pas. Ce n'est pas l'augmentation qui est le problème, c'est le moment. Les gens comprennent bien avec le gouvernement, mais qu'ils demandent au gouvernement de faire de sorte que les compteurs prépayés sont installés dans la majorité des foyers des Nigérians avant que cette augmentation ne rentre en vigueur. Il y a une cour d'appel qui a déjà suspendu la mise en vigueur de nouveaux tarifs et que le gouvernement fait semblant de ne pas le savoir.
Le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos au Nigeria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis, le président américain Barack Obama présente ce mardi le budget 2017, le dernier de son mandat présidentiel. Le document qui se heurtera à l'opposition des deux chambres du Congrès contrôlées par les républicains n'aura qu'une portée législative limitée, mais M. Obama espère l'utiliser pour afficher une dernière fois ses priorités. Le président Obama souhaite notamment créer une taxe de $10 par baril de pétrole qui permettrait de financer les transports propres, avec en particulier le développement de lignes ferroviaires à grande vitesse. Élection primaire présidentielle, le New Hampshire. Les électeurs de cet État du Nord-Est des États-Unis se rendent aux urnes ce mardi. Les favoris dans les deux camps présents sont le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders. Les autorités attendent une participation record en dépit de fortes chutes de neige. Plus de 9 000 nouveaux électeurs se sont inscrits depuis fin décembre. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Thomas Camilindi, a assisté à des meetings hier à Manchester dans l'État du New Hampshire. On l'écoute au micro de Nathalie Barge.
Tous les candidats ont battu campagne dans le New Hampshire. C'est inhabituel. Dans les élections précédentes, il y a des candidats qui délaissaient cet État. Et selon ce que les habitants m'ont dit, ils ont vraiment battu campagne des dizaines, voire quelquefois des centaines de fois. Pourquoi ? Parce que cet État est déterminant. Et donc, j'ai été à un meeting de Donald Trump, qui est donné favori chez les Républicains. Mais on nous a dit dans ce meeting-là, vous n'êtes pas invité, les journalistes, vous n'êtes pas invité, vous n'entrez pas. Mais j'ai été dans le meeting de Bernie Sanders, du Parti démocrate, qui est en tête des opinions de vote dans le New Hampshire. Et lui, donc, c'est un homme confiant, visiblement, qui est monté petit à petit dans les sondages, non seulement dans les sondages, mais aussi dans les finances. Aujourd'hui, il a dit, nous sommes en train de gagner parce que nous avons la population avec nous qui nous donne de petites sommes, mais ils sont nombreux à nous donner ces petites sommes qui font de grosses sommes pour nous permettre de faire cette campagne. Et donc, tous les gens étaient enthousiastes.
Alors, l'on a coutume de dire que dans cet État, les électeurs se décident au dernier moment, parce que environ 44% sont indépendants, donc ils ont le choix entre démocrates et républicains. Est-ce que vous en avez rencontré certains? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'une manière générale?
La plupart de gens à qui j'ai parlé, à commencer par les chauffeurs de taxi qui me promènent dans la ville, ils disent « Nous, on a une devise, vie libre ou meurt. Nous voulons être libres de ces politiciens, nous voulons être libres de toutes ces choses, de toutes ces démagogies. » Et ils critiquent beaucoup de candidats. Donc, ce sont des gens, effectivement, qu'il fallait convaincre. Et à mon avis, c'est pour cela que les candidats sont venus à plusieurs reprises, à des dizaines de fois ici, parce que selon les analystes politiques, s'il y a perte dans ces primaires dans le New Hampshire, il y a risque de quitter la campagne.
Vous avez été au meeting de Bernie Sanders. Comment l'avez-vous trouvé?
Il a l'air convaincant. Derrière son pupitre, il n'y avait que des jeunes qui avaient des pancartes de son slogan, un slogan grosso modo qui dit « Notre futur, c'est ça ». Et donc, il pense qu'il va gagner.
Et du côté de Hillary Clinton, elle a des renforts en ce moment. Son époux, le président, sa fille, etc. Comment cela est-il perçu?
C'est perçu comme des efforts de dernière chance. Ils disent Hillary Clinton n'avait pas beaucoup de chance aujourd'hui et donc appelle son époux et sa fille en renfort. C'est un geste de désespoir. Et est-ce que ça va vraiment la sauver? Est-ce qu'elle va gagner cette élection? Les gens ici se posent vraiment la question.
Alors, il y a des têtes qui vont encore tomber, là, côté républicain, probablement, aujourd'hui.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le premier auquel les gens pensent beaucoup, c'est Jeb Bush, fils et frère de président. Et donc, lui, il a eu un mauvais score dans l'Iowa. Et les gens disent ici qu'il a encore un mauvais score. Il va partir pour sûr. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres. Quoi qu'il en soit, ceux à qui on donne beaucoup de chance aujourd'hui, c'est les mêmes, les trois premiers, de l'Iowa, Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. Et les autres donc risquent de partir effectivement.
Thomas Camilindi, notre envoyé spécial aux primaires du New Hampshire, ici aux États-Unis. Et pour terminer, le président Barack Obama a promulgué une loi lundi, adoptée la semaine dernière par le Congrès, qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique pour fournir l'électricité à 50 millions d'Africains supplémentaires. La loi avait été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants après le Sénat. Elle ne débloque pas des fonds nouveaux, mais exige de l'administration américaine qu'elle coordonne une stratégie pour encourager le secteur privé et les organisations internationales à investir dans l'électrification de l'Afrique subsaharienne. La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de 7 milliards de dollars et que le président Barack Obama avait promu lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.